Énergie Violette, Adeline Courson pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue sur Énergie Violette. Grâce aux découvertes en neurosciences, mais aussi grâce à son expérience en psychiatrie et en pédiatrie, mon invité a plus d'une corde à son arc. Les personnes en demande d'être accompagnées dans leur monde sensible peuvent s'appuyer sur l'ensemble de son spectre thérapeutique. Prendre conscience de la part infantile de soi et de son évolution depuis la petite enfance est la voie qu'il privilégie dans ses accompagnements. C'est un homme riche d'expériences personnelles et professionnelles que je souhaite maintenant vous présenter en la personne de Bertrand Chapuis. Bonjour Bertrand.
Bonjour Adeline, merci pour cette présentation.
Avec plaisir. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté mon invitation. Et nous allons aborder avec toi ton approche si particulière de la thérapie. Mais avant ça, on aimerait un peu mieux te connaître. Savoir quel parcours tu as eu, quelle est ton histoire.
Oui, c'est d'autant plus important que quand on ose occuper cette place de thérapeute, il faut savoir d'où on vient et c'est pas une place qu'on occupe comme ça, et en tout cas pas uniquement avec des savoirs livresques ou des diplômes, parce que c'est vraiment... une relation humaine qui va s'instaurer dans l'accueil d'une personne qui vient demander de l'aide. Alors, j'ai eu, en gros, je dirais, une chance d'avoir une enfance à la fois protégée dans un milieu qui m'a apporté beaucoup de présence, hein, quand je pense à d'autres parcours. Avec une certaine difficulté parce que j'ai été en fait mis en pension très jeune, hein, et ça m'a amené à devoir compter sur plusieurs types de parentalité, pas simplement mes deux parents. Et puis, c'est à l'adolescence que j'ai pris conscience de la relation particulière que je pouvais construire avec mon père. Puisque mon père était chirurgien dans une petite clinique de province qu'il a gérée, qu'il a construite et adaptée au fil des années. On est dans les années 70, hein, donc c'est une toute autre chirurgie que la chirurgie actuelle. C'est une chirurgie générale. Mon père était avec un autre chirurgien, ce qui veut dire qu'ils étaient de garde un week-end sur deux. C'est une des raisons d'ailleurs de la mise en pension, hein. C'était une petite ville de province. Et à l'adolescence, assez naturellement, pour rencontrer mon père, je vais dans la salle d'opération.
D'accord.
Et j'ai donc assisté à mes premières opérations, en étant d'ailleurs très coucouné par les infirmières de salle d'op, parce qu'inutile de dire que je suis tombé dans les pommes pendant, disons, quelques opérations. Mais ça ne m'a pas découragé. Et puis, j'ai petit à petit... pu apprendre vraiment par compagnonnage la pratique chirurgicale durant cette adolescence, mes années de lycée, si bien que le bac en poche, mon rêve était de faire médecine pour devenir chirurgien. Et pour différentes raisons, je savais aussi qu'en entreprenant des études de médecine, je pouvais différer mon service militaire qui était encore obligatoire et qui pouvait devenir un service national. Hein. On était volontaire du service national en partant à l'étranger, et mon rêve était de partir en Afrique, hein, pour aller vivre des expériences et aller à la rencontre de ce pays et de ses... de ces personnes qui m'interrogeaient et qui m'intéressaient, donc pour différents titres. Si bien que durant mes études, j'ai fait ma médecine à Paris, à Necker, enfant malade, où j'ai aussi rencontré beaucoup de praticiens qui m'ont beaucoup appris et notamment qui m'ont permis de comprendre aussi la différence entre la chirurgie, l'acte manuel de la thérapie chirurgicale où on ouvre des ventres, on opère. Et puis, durant mes études, mes stages d'externat, comprendre toute la richesse aussi de la médecine, des examens biologiques. J'ai eu la chance, par exemple, de passer dans le service du professeur Hamburger, le père de Michel Berger. Et dans ce service, travaillait le professeur Cronier, qui était aussi responsable des premières greffes rénales. Et j'ai appris énormément cette médecine humanitaire où, pour qu'une greffe réussisse, non seulement il faut effectivement les groupes génétiques qui vont bien pour que la greffe prenne, mais qu'il y ait aussi une prise en compte de la famille, de la manière dont le patient allait être soutenu par l'entourage. Voilà, j'ai donc eu cette richesse de la médecine qui ne m'a pas fait dévier de ma trajectoire, de vouloir partir faire de la chirurgie en Afrique. Il m'a fallu donc passer le concours d'internat et j'ai été reçu au concours de Toulouse. C'est pour ça qu'en 80, je débarque à Toulouse, je démarre mes premiers stages et en 83, je vais partir pour un an et demi en Afrique. Alors, comme j'avais une certaine pratique, j'ai exercé vraiment beaucoup d'interventions et il m'est arrivé plusieurs histoires. Je ne vais pas pouvoir tout raconter. Ce que ça intéresse d'ailleurs, comme j'anime l'émission Les Passages, il y a une émission de septembre là, 2023 où je raconte un peu en détail certaines choses qui me sont arrivées en Afrique. Mais je vais simplement dire qu'il m'est arrivé d'accueillir, enfin aux urgences, un garçon d'une dizaine d'années qui venait de se faire renverser par un camion et qui avait la cuisse broyée. Il a fallu que j'ampute et au bout de 2 heures d'intervention, alors que je suturais la peau, il a fait plusieurs arrêts cardiaques et le dernier a été fatal. Ce sont ses parents qui m'ont consolé, le père me disant « Toubab, tu as fait ce que tu savais, Inch'Allah ». Et en fait, ce rapport au savoir m'a beaucoup interrogé. Il aurait pu me dire « Tu as fait ce que tu pouvais ». Mais le fait de dire tu as fait ce que tu savais et donc tu ne sais pas tout. Il faut reconnaître que notre enfant est parti. Et donc il y a cette pensée animiste qui leur permet d'avoir un rapport à la mort un peu différent. Toujours est-il que, rentrant en France, je passe ma thèse de médecine durant mon année et demie de chirurgie. Donc c'est une thèse de chirurgie que je vais faire, tout en décidant d'arrêter cette chirurgie que je ne retrouvais plus en France parce que la chirurgie devenait hyper technique, hyper spécialisée. C'était plus la chirurgie générale que j'aimais. Et je décide, après avoir ouvert des ventes, d'ouvrir des têtes, entre guillemets. J'ai la chance de passer en neurologie. J'ai la chance de rencontrer un professeur qui m'a énormément appris la clinique au lit du malade, qui s'appelait André Rascol, qui me permet d'avoir un stage chez le professeur Glowinski, au Collège de France, qui est un des papes des neurotransmetteurs. Donc, je vais faire un stage dans son service qui m'a à la fois passionné, mais en même temps, je n'avais pas envie de doser les neurotransmetteurs dans le cerveau du chat. Ce n'était pas la recherche par laquelle j'étais attiré. Il me manquait de l'humain, si je puis dire. Et c'est pour ça que parallèlement, je fais aussi mon certificat de psychiatrie. Et je termine mon internat sans avoir validé ma spécialité de psychiatrie. Il me fallait donc absolument, après un internat, ce qu'on appelle un clinica, que je n'ai pas trouvé sur Toulouse. Je suis donc parti pendant 3 ans à Strasbourg. Et à Strasbourg, dans un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, et donc j'ai vécu aussi, durant ces 3 années à Strasbourg, des rencontres dont je pourrais vous parler tout à l'heure, qui m'ont guidé dans ce que tu appelais la part infantile, qui m'a amené à comprendre que la part infantile, elle est particulière chez l'enfant, mais elle est en fait à l'intérieur de nous tout au long de notre vie. Si on sait l'écouter, bien sûr, l'infantile ne se manifeste pas de la même façon à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et c'est pour ça que ce concept m'intéresse, parce qu'il fait référence au parental. Hein, si on met de l'infantile, il faut du parental. Mais on pourrait dire, pour faire un petit peu court, que l'infantile, c'est ce que les psychanalystes appellent le pulsionnel. Hein, l'infantile, c'est les pulsions d'envie ou les pulsions de non-envie. Hein, on est capable d'avoir beaucoup d'énergie quand on n'a pas envie de quelque chose.
Ah oui.
Voilà, je ne sais pas si ça répond.
Ça répond tout à fait à ma question. Alors, je sais que tu parles d'un monde sensible des représentations mentales. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ?
Alors, un monde sensible des représentations mentales, là encore, l'écoute des enfants est ce qui va nous permettre de donner de la, comment l'enfant se représente les choses. Et c'est ce qui, pour moi, m'a guidé ensuite dans mes thérapies vis-à-vis des adultes. Mais je n'aurais jamais pu construire ma thérapie auprès des adultes que je continue d'exercer si je n'avais pas cette écoute et cette approche de l'infantile des enfants. Si bien que pendant très longtemps, j'avais une activité mixte, hein, à la fois de responsable d'un centre médico-psychologique, hein, et le reste du temps de thérapie en libérale. Alors, pour répondre et donner aux auditrices et aux auditeurs une visibilité, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis à Strasbourg, justement, encore en train d'apprendre mon rapport aux enfants, et ça fait partie de mes premières consultations en centre médico-psychologique. J'avais eu une après-midi très chargée, parce que beaucoup de rendez-vous, et c'était mon dernier rendez-vous. La secrétaire me tend la fiche qui me présente l'enfant que je vais être amené à accueillir avec ses parents, en me disant « c'est un problème de dyslexie, donc a priori ça va être une demande de bilan orthophonique, situation relativement facile, si je puis dire, après une après-midi un peu compliquée ». En fait, il se trouve que je me trouve face à une petite fille qui s'appelle Karine, âgée de 6 ans et demi, et qui m'est adressée à la consultation, en fait, par son orthophoniste qui déjà la suit en libéral. C'était la maîtresse de CP qui avait remarqué qu'elle avait des difficultés d'apprentissage de la lecture en même temps qu'un trouble de l'élocution. Hein, donc, le trouble de l'élocution, c'est ce qu'on appelle un trouble de la parole, alors que le trouble de la lecture est ce qui va faire la question de la dyslexie, trouble du langage. Donc la maîtresse de CP, ayant remarqué ces difficultés, avait conseillé aux parents de faire le bilan orthophonique qui avait confirmé les difficultés. Donc, avait commencé des séances de rééducation pour l'enfant. Et en fait, assez rapidement, au bout de quelques semaines, durant les séances, Karine est opposante. Elle refuse les aides qui obligent l'orthophoniste à passer par des jeux, à essayer d'apprivoiser l'enfant, de la motiver à essayer donc de faire des efforts à la fois pour bien parler et entrer dans le codage de la lecture. Mais en fait, elle se met de plus en plus en colère, si bien que l'orthophoniste ne peut pas continuer sa rééducation et dit aux parents qu'elle n'y arrive pas et qu'il faudrait peut-être faire une consultation en CMP. D'autant que les parents disent « ben oui, mais nous, à la maison, c'est pareil. Hein, quand on veut la reprendre pour corriger son trouble de prononciation, elle se bloque. » Et le papa dit « oui, on peut rien en tirer. » Et puis ça les étonne parce que, habituellement, Karine est une petite fille qui est plutôt sage, qui n'a jamais fait trop de problèmes, qui aime bien jouer avec sa petite sœur. Ce que les parents disent, c'est un enfant sans problème. Mais pas là-dessus. Alors, pendant que j'écoute les parents, Karine, à qui je me présentais d'habitude, j'avais pris l'habitude de me présenter à un enfant comme étant le docteur du cœur. Oh. Puisqu'ils savent que je suis un docteur. Souvent, les enfants ont peur des docteurs. Alors, je leur dis, moi, je suis un docteur du cœur, je suis un docteur des peurs, je suis un docteur des colères, je suis un docteur, en fait, etc. Donc, des émotions. Alors, je l'assois donc en face de moi, de l'autre côté du bureau. Je lui donne une feuille, des feutres, et je la vois commencer un dessin coloriant consciencieusement de bleu l'eau de ce que je pense être la mer qui entoure ce que je crois être une île, hein, et en même temps que je parle avec les parents. Ces parents, eux, sont assis derrière, donc ils ne voient pas le visage de leur enfant, ni non plus ce qu'elle est en train de dessiner sur le bureau. Alors, je fais mon travail d'investigation et je demande aux parents comment ça s'est installé, ce trouble de l'élocution. Je redémarre sur le trouble de l'élocution avant la dyslexie. Hein. Je dis comment ça s'est installé, est-ce que ça a commencé dès qu'elle a commencé à parler. Quand je pose cette question aux parents, je vois Karine qui lève la tête et qui me regarde, visiblement attentive à la réponse que vont donner ses parents. Elle curieuse de savoir, effectivement, mais comment ça s'est passé, ce trouble-là. Les parents se regardent, ils savent pas trop, ils s'interrogent, ils hésitent, ils essayent de réfléchir. Et puis finalement, c'est le papa qui va se mettre à raconter une histoire en s'adressant à sa femme et en la regardant. « Mais oui, rappelle-toi, quand elle avait 3 ans, on était allé pique-niquer à la gravière. » Autour de Strasbourg, il y a beaucoup de gravières qui sont désaffectées et donc on peut venir s'y baigner, mais c'est assez dangereux, c'est pas surveillé. Elle jouait au bord de l'eau avec son seau et sa pelle et tout à coup, elle a disparu. La berge étant raide, Karine avait perdu pied, elle commençait à se noyer. Le père, voyant qu'elle avait disparu, aperçu que ça se débattait un peu, rapidement, il est allé la rechercher, la ramener sur la rive. Il avait fallu que Karine soit un peu réanimée par son père. Bon, ça allait bien, il avait son brevet de secouriste. Grâce à quoi ils sont pas passés par les urgences et assez vite l'enfant avait repris connaissance et à l'évocation de ce souvenir la maman enchaîne et elle dit ah oui c'est peut-être ça tu as raison c'est vers cet âge-là en tout cas qu'elle s'était mise à mal parler et qu'elle ne voulait même pas dire son prénom correctement elle disait Caïn sans prononcer le R. Moi, j'étais en train d'écouter les parents. Et comme bon docteur, j'avais une feuille et j'essayais de prendre des notes de ce que les parents me racontaient pour pouvoir après faire mon compte-rendu de consultation. Et j'étais encore dans l'émotion de la situation. Hein. J'imaginais cette petite fille qui avait failli se noyer, que le père venait de réanimer. Et donc j'écris sur mes notes, 3 ans, elle faillit de se noyer, elle ne dit plus les R. Et à ma surprise, j'écris A-I-R-S. Et là, c'est totalement...
Manque d'air.
Si tu veux, pour moi, c'est pas du tout intentionnel. C'est une écoute associative qui répond à ta question. Comment ça se représente dans le mental? Ça se représente par ce qu'on appelle des signifiants. Des signifiés, la lettre R peut aussi être le R. Comme mère peut faire plein de signifiants entre... les différentes mères que Karine était en train de dessiner. Alors, je suis surpris moi-même d'avoir écrit à IRS. Je me mets à regarder Karine en même temps que la mère est en train de dire qu'elle n'arrive pas à prononcer son prénom. Et Karine avait repris son dessin, l'air un peu absent, sur son coin de bureau. Et je lui fais part, un peu en catimini, qu'elle avait effectivement manqué d'air en se noyant et qu'elle avait dû avoir très peur que cette peur n'était peut-être toujours pas partie. Sa mère n'entendait pas très bien ce que je disais à sa fille puisqu'elle continuait à parler. Et quand la mère a dit, d'ailleurs, elle n'arrive pas à dire son prénom, Karine, qui venait d'entendre que j'avais reconnu qu'elle avait manqué d'air, se retourne, regarde sa mère et lui dit, « Si, je m'appelle Karine !» Les deux parents se regardent tout à fait étonnés. C'est pas possible. Comment est-ce qu'elle peut dire bien ce prénom alors que d'habitude elle le dit jamais, même elle se fâche. Et elle le dit là d'un air fâché. Je m'appelle Karine en prononçant correctement. Alors, il m'a fallu un peu de temps pour reprendre mes esprits, essayer de comprendre ce qui venait de se passer, comment effectivement l'inconscient avait fait un lien entre l'acoustique du son R et le fait que n'ayant pas été reconnu. Donc, j'explique aux parents que leur fille et eux avaient été pris d'une angoisse de mort, certainement très violente, traumatique, que grâce à l'intervention rapide du papa, les parents, eux, avaient pu reprendre rapidement le cours de leur vie et laisser l'événement traumatique s'empressant de l'oublier. Mais leur petite fille avait dû rester bloquée dans son angoisse de mort, un peu seule comme une naufragée sur son île au milieu de l'océan, hein, comme une petite Robinson. Et la charge affective de l'angoisse de mort qui n'avait pas pu être parlée, ben, c'est comme si Karine n'existait plus, donc elle ne pouvait pas dire Karine. Voilà. Et il fallait que quelqu'un vienne la chercher sur son île déserte. Et ma parole ayant reconnu son angoisse de mort, ayant pu formuler qu'elle avait manqué d'air, hein, j'ai certainement, au niveau de son cerveau, hein, déconnecté dans ses synapses un lien entre la lettre R et le manque d'air qui lui a permis très ponctuellement de prononcer son prénom. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'effet magique qui s'est passé durant la séance, qui a gommé le symptôme d'élocution très ponctuellement, ne s'est pas maintenu. Pourquoi ? Pour des raisons synaptiques, c'est-à-dire que l'enfant avait de toute façon déjà frayé dans le cerveau des évitements de la lettre, hein, mais ce que l'interprétation durant la séance a permis, c'est que j'ai pu dire à Karine, maintenant tu vas pouvoir retourner chez l'orthophoniste. Tu vas pouvoir accepter le travail, l'effort de pouvoir enfin aller rencontrer les autres, apprendre à lire à l'école. Et effectivement, à la suite de cette consultation, Karine a pu reprendre cette fois les séances d'orthophonie. Elle est venue me voir au début, toutes les 15 jours, puis 3 semaines, puis tous les mois, me racontant les progrès qu'elle faisait, qu'elle était toute contente maintenant de faire des efforts et de dépasser son symptôme. Et donc, inutile de dire qu'il n'y a pas eu de dyslexie qui s'est installée.
Wow.
Alors, ça ne veut pas dire que toutes les dyslexies ont forcément des traumatismes de cet ordre-là, bien évidemment. Hein. Mais je pense que si l'enfant rechigne à corriger le trouble, c'est qu'il faut peut-être chercher derrière d'autres traumatismes qui viennent se greffer. Voilà.
Et tu as appris à avoir ce genre d'écoute pour faire un petit peu un constat de la situation. Même là, je veux dire, ce que tu évoques, c'est très très parlant, mais encore faut-il écouter ce manque d'air.
Eh bien, il y a un point commun dans l'histoire de Karine, hein, et ce que je t'ai raconté, un des événements importants qui m'est arrivé en Afrique, c'est la mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, quand je suis jeune étudiant, pratiquant la chirurgie que mon père m'apprend, je réalise que j'ai un sentiment de toute puissance, je pense qu'on peut du coup sauver tout le monde, etc. Enfin, c'est étonnant ce métier de chirurgien, hein. On reçoit en urgence des gens qui vont pas bien, on les opère et voilà, c'est presque, ils ressuscitent entre guillemets, si je puis dire. C'est un métier assez particulier, hein. La chirurgie générale en tout cas, la chirurgie de traumatisme, la chirurgie d'urgence, bon, pas la chirurgie réglée. Et lorsque il nous arrive un décès sur la table d'opération, et particulièrement d'un enfant de 10 ans, tu es obligé de réaliser, comme le père me dit, non, je ne sais pas tout, effectivement. Donc, de ce côté un peu ambitieux, de vouloir sauver, etc., tu prends beaucoup plus d'humilité pour être à l'écoute de ce qui n'est pas rationnel, si je puis dire. Donc c'est une ouverture mentale à une autre écoute que l'écoute du visible. Donc c'est effectivement une ouverture au monde sensible.
Merci, merci beaucoup Bertrand. C'est très parlant ce que tu nous dis. Et ça illustre bien, je dirais, la thérapie que tu as, ta façon en tout cas de la faire, de l'assumer et aussi d'accompagner les gens de cette manière. Alors, on va marquer une courte pause, si tu veux bien.
Bien sûr.
Je t'ai demandé de nous choisir un morceau de musique. Qu'est-ce que tu as choisi, Bertrand ?
Eh bien, dans le prolongement de tout ce qu'on vient de raconter, il y a une chanson que j'aime bien, c'est « Il est libre, Max ». Parce que je crois qu'il faut, pour avoir cette écoute-là, se libérer un certain carcan de pensée, dans une certaine rationalité. On demande beaucoup aux médecins aujourd'hui de faire des diagnostics, que chaque enfant ou chaque adulte rentre dans une case. Et c'est vrai que, étant maintenant à distance de mes activités médicales, hein, puisque je suis retraité de mes activités médicales, je continue avec certaines personnes d'être en écoute de thérapeute. Il m'a fallu me libérer d'un trop grand logos, hein, d'une trop grande connaissance de rationalité pour pouvoir ouvrir, justement. Il s'envole, Max, puisqu'il est libre.
Eh ben c'est parfait, on écoute ça.
Même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max, il est libre, Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Garde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Par-delà les labos, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Vous êtes toujours sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Nous retrouvons immédiatement Bertrand Chapuis, qui exerce en tant que thérapeute. Alors Bertrand, peux-tu nous expliquer en quoi la thérapie que tu proposes peut aider une personne à aller mieux ?
Je pense que ce qui est important, comme j'ai essayé de le faire sentir, c'est que j'écoute l'infantile qui est au cœur de chacun de nous, quel que soit notre âge. Alors la thérapie que je pratique s'est inspirée de la psychanalyse. D'ailleurs, on disait souvent que la personne faisait une psychothérapie d'inspiration psychanalytique. Quand je disais ça, quand j'étais plus jeune, je me disais, puisqu'on parlait de respiration et qu'on parlait d'air que Karine avait manqué, je me disais, mais si j'inspire psychanalytiquement, comment j'expire ? Parce qu'en fait, moi, dans les rencontres que j'ai avec les gens qui viennent me voir, s'ils ont besoin, je parle, hein, et je fais des thérapies en face à face. Je n'ai pas de divan, et donc je ne me considère pas comme psychanalyste. Et je pense qu'effectivement, la cure analytique, telle que les gens la pensent et que pratiquent les psychanalystes en général, on est allongé sur un divan et le fait de ne pas voir l'analyste, hein, et d'être l'analysant soi-même de son propre discours, regardant un plafond ou fermant les yeux, on est bien donc dans l'intra-psychique. Hein. Donc c'est un voyage à l'intérieur de la psyché et le cadre analytique essaye de tenir à distance la vie extérieure pour pouvoir travailler les conflits intérieurs dans ce que les psychanalystes appellent un transfert qui génère chez le psychanalyste un contre-transfert, enfin, etc. La thérapie donc d'inspiration psychanalytique que je pratique a en fait une expiration différente et que j'ai compris en fait assez curieusement parce que c'est dans cette approche et dans ce courant-là que j'ai baigné pendant 3 ans à Strasbourg. C'est ce qu'on appelle un courant qui s'est enrichi de la phénoménologie, donc de la philosophie allemande, hein, par un psychiatre suisse qui s'appelle Binswanger, qui a été, alors le terme allemand c'est Daseinanalyse, et en français, si on le devait à le traduire, ça serait une analyse existentielle. Et aujourd'hui, je fais attention d'enlever le préfixe psychothérapeute parce que je suis thérapeute à la fois de la psyché, mais aussi du corps et puis du cerveau qui connecte l'esprit et le corps. Donc, je reçois la personne dans toute sa dimension, en face à face, en échangeant et en m'appuyant en fait sur les capacités qu'a la personne d'être co-thérapeute avec moi de son infantile. Parce que j'ai besoin de sa réflexion et donc de ce qui se passe dans ce qu'on appelle le néocortex, hein, le cortex qui nous a fait devenir des êtres humains capables de réfléchir, notre cerveau émotionnel qui est ce qu'on appelle le paléocortex. Et ces notions-là, je les avais acquises lors de mon stage chez Glowinski et dans les recherches des neurosciences, à bien différencier le nouveau cerveau néocortex qui lui-même est bicéphale, hein, puisqu'on a un hémisphère gauche et un hémisphère droit, qui n'ont pas les mêmes fonctions. Et les deux fonctions doivent travailler simultanément pour élaborer les angoisses, les colères, les chagrins, les culpabilités, les jalousies qui émergent de notre cerveau émotionnel, qu'on appelle le cerveau limbique, qui est le paléocortex, qui est entre le néo et l'archéocortex, avec le tronc cérébral, l'hypophyse, qui est une glande aussi extrêmement importante, et d'où part la moelle, et qui va envoyer des tas de messages à notre corps musculaire, tendineux, mais aussi à nos viscères, hein, et qui va en même temps récolter toute la sensorialité qui remonte de notre corps, que les gens travaillent en méditation, ce qu'on appelle les méditations en pleine conscience. Donc voilà, ma thérapie s'adresse à l'infantile, hein, et à la co-thérapie des personnes. Je dis souvent, je ne suis pas votre thérapeute, c'est vous qui faites de la personne que je suis le thérapeute dont vous avez besoin. Et en tout cas, vous n'êtes pas mon patient ou ma patiente. Je ne suis pas dans une identité d'appartenance. J'aide la personne à devenir thérapeute d'elle-même et à apprendre à être patient d'elle-même.
Alors, tu parlais d'anatomie, mais moi, j'aimerais aussi, parce que tout à l'heure, tu as abordé le subconscient. Le subconscient où se loge aussi tout ce qui va être après réflexe. Hein, donc, tu donnais l'exemple de Karine avec ce R. Oui, quelque part, il y a une programmation qui a été dans son subconscient, qui a été induite par cette confrontation à la mort. Est-ce que toi, tu as pour objectif d'aller dénicher tout ce qui se loge dans ce subconscient chez la personne et qui pourrait être déprogrammé pour être programmé ensuite, quoi. Est-ce que ça fait partie de ta manière de faire?
Je dirais pas vraiment ce que tu abordes me ferait penser d'abord ce qu'on peut nommer subconscient. Si j'ai à le localiser dans les cerveaux dont on vient de parler, il est au niveau du paléocortex. Le paléocortex a une mémoire et a une capacité de représentation mentale, puisque c'est du paléocortex que se forment les rêves nocturnes ou nos fantasmes diurnes. On ne rêve pas avec son néocortex. Avec son néocortex, on réfléchit, on analyse, ou on poétise, ou on associe. Mais les pensées, les créateurs travaillent en fait avec cette dimension limbique des émotions. D'ailleurs, les publicitaires l'ont très bien compris, puisque ton paléocortex est capable d'enregistrer des images ou des messages que ta conscience n'a pas intégrés, si tu veux, ou auxquels tu ne fais pas attention. Un des signes, par exemple, de ce que je te raconte, c'est que quand tu es par exemple en thérapie avec un enfant, mais ça peut être aussi avec un adulte, il a ce cerveau émotionnel qui est très chargé, c'est un peu comme une cocotte minute si tu veux. Toi, tu, en tant que thérapeute, tu es en train de faire le dessin avec un enfant ou de ce qu'il est en train de mettre en scène avec des Playmobil, et puis passe dans la rue, mettons, une ambulance. C'est l'enfant qui va tout de suite dire « qu'est-ce qui se passe ?» comme s'il avait une espèce d'hypersensibilité, alors que toi, tu l'entends, mais tu n'y fais pas attention parce que tu es concentré sur... Alors que justement, l'enfant, il a encore une très grande vulnérabilité. C'est pour ça aussi que pour beaucoup d'enfants à l'école, par exemple, plutôt que d'écouter la maîtresse, ils vont écouter le bavardage du voisin, la gomme, enfin le crayon qui tombe par terre, le bruit.
Oui, c'est plus intéressant.
Voilà. Alors que le cerveau est petit à petit, il va faire du filtre en fait. Mais pour beaucoup d'enfants, le filtre ne marche pas bien et ils sont, en plus avec les nouvelles technologies, ils ont un cerveau qui a l'habitude de capter énormément de messages qui peuvent venir parasiter.
Bien sûr, sans compter l'inconscient collectif aussi. Absolument. Que l'on capte. Alors, est-ce que d'après toi, tout le monde est réceptif à ce genre de thérapie? Est-ce que tout le monde peut adhérer à ça pour que ça fonctionne, hein, naturellement, hein?
Ben, non, pas forcément. En tout cas, ça dépend de leur demande. Et pour reprendre la question que tu posais, je ne cherche pas, moi, à tout prix, à ce que ce qui est contenu dans ce cerveau des émotions, si je puis dire, d'aller le chercher de force. J'incite les gens en thérapie à parler de leurs rêves. Parce que le rêve contient des messages que l'on peut essayer d'interpréter, parle de nous-mêmes en fait et de comment on s'est construit. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que la plupart des gens, ordinairement, moi je ne me souviens pas de mes rêves. Ce qui est tout à fait physiologique parce que la fonction du rêve, c'est d'être gardien du sommeil. On ne rêve que pendant la phase de sommeil paradoxal. C'est-à-dire un moment, en fait, où notre cerveau néocortical, lui, dort, notre conscience dort, mais nos deux autres cerveaux sont en pleine activité dans le sommeil paradoxal. Chez l'enfant, c'est à ce moment-là qu'est sécrétée l'hormone de croissance et qu'on recycle des tas de choses vécues dans la journée. Et normalement, quand ça marche bien, cette activité qu'on appelle paradoxale, parce que si je prends ton pouls, il est accéléré comme si tu étais en train de courir, tu as de la sudation, tu as un rythme respiratoire, donc ton corps est en plein mouvement, immobile bien sûr, et comme ce sang est riche d'hormones, etc., quand il circule dans le paléocortex, il fabrique des images qu'on va appeler des rêves. Donc on rêve pendant la période de sommeil paradoxal. Et c'est pas fait pour s'en souvenir. On s'en souvient quand le produit même du rêve génère de nouveau des affects qui vont nous angoisser. Généralement, c'est chez les enfants, les premières terreurs nocturnes, les cauchemars, où là, on peut se réveiller en sursaut. Donc ça, c'est des rêves nocturnes. Et puis, Si tu fais un peu la grasse matinée, que tu te lèves pas forcément rapidement pour partir au travail, tu as le rêve de dernière nuit, et au moment où tu te réveilles, si tu as envie d'essayer d'être à l'écoute du rêve parce que tu es en thérapie et que tu as envie de mieux comprendre ton monde intérieur, bah, tu peux apprendre petit à petit à mieux te souvenir de tes rêves pour pouvoir mieux te connaître. J'aime bien... je crois d'ailleurs que quand je t'avais invité, on avait passé la chanson de Nougaro sur l'écran noir de nos nuits blanches. Mmh. Sur l'écran noir de nos nuits blanches, on utilise des craies. Et tu vois que la craie, c'est très volatile. Donc ça, c'est le paléocortex. Si je devais métaphoriser le néocortex et la conscience, je dirais sur l'écran blanc de nos boîtes noires, en faisant référence, tu vois, aux boîtes noires des avions où tout est enregistré, et sur un tableau blanc, tu prends des feutres, je sais pas comment on appelle ça, mais qui sont que tu n'effaces pas, quoi, tu vois,
indélébile.
Voilà. Donc c'est à la fois tu as un écran blanc, mais il faut veiller à ne pas justement être trop que sur des choses qui sont définitivement écrites, comme si c'était inamovible.
Merci Bertrand, on va marquer une courte pause. Moi, je vous propose d'écouter Sweet Baby de George Duke.
About your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside. Thoughts are only you, wandering through the memories in my mind. How could love so real have turned so empty? I just keep wondering why. Will I ever find the love we shared together?
Énergie Violette, nous sommes toujours en compagnie de Bertrand Chapuis qui est thérapeute à Toulouse. Bertrand, nous avons parlé de ton parcours, des services que tu proposes. Alors, de ta longue expérience, peux-tu nous dire quelles évolutions tu as pu constater chez les personnes que tu as accompagnées? Quelques exemples, quelques anecdotes, voilà.
Pour répondre à ta question, je vais encore décaler en fait la manière de répondre parce que ça n'est pas de thérapie d'adulte dont j'ai envie de témoigner sur Esprit Occitanie. Je préfère montrer en quoi l'écoute des enfants est ce qui va guider ensuite, des années après, l'écoute que l'on peut avoir face à l'adulte que l'on accueille. Alors, j'en profite pour te dire que je suis engagé depuis plusieurs années dans une association qui s'appelle FARE, F-A-R-E, pour Formation, Action, Recherche, Enfance. C'est une association qui propose des aides aux professionnels qui accompagnent des enfants et des adolescents qui présentent des troubles du développement. Alors, ça peut concerner une équipe au sein d'une institution ou des professionnels installés en libéral, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, art-thérapeutes. Et les FARE organisent aussi des soirées de réflexion sur des thèmes variés. Ces soirées ont lieu à la communauté municipale de santé qui est rue Malbec, certains jeudis à partir de 20h30, pour la modique somme de 20 euros, qui est un argent qui participe aux frais de fonctionnement de l'association. D'ailleurs, je pourrais informer que la prochaine soirée sera le 29 février sur un thème particulièrement important qui concerne les adolescences actuelles, puisque Marie Chioca, qui est psychanalyste, pose la question « Et si le féminin n'existait pas ?» C'est un thème qui va nous aider à réfléchir sur ces vécus de jeunes qui réinterrogent la séparation, la binarité exclusive de la différence des sexes, avec des revendications de pouvoir aborder leur féminin, leur masculin. Mais c'est à propos d'une autre soirée que je voudrais te raconter l'histoire de Jean. Jean est un garçon de 12 ans que j'ai aussi croisé lors de mes années à Strasbourg et qui, lui, était en hôpital de jour, qui accueille des enfants en difficulté de scolarisation. Il faut savoir, pour répondre à ta question par rapport à l'évolution aujourd'hui, que dans les années 80, on évoquait encore le registre de la psychose et des psychoses infantiles, qui aujourd'hui est un concept de plus en plus difficile à manier, si je puis dire, parce que soit on est sur des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, et puis ce grave problème dont j'aimerais un jour peut-être faire une émission sur la problématique de l'autisme extrêmement complexe, puisqu'en fait on parle de troubles du spectre autistique qui montrent qu'il y a de multiples façons de développer des symptomatologies de type autistique. La loi de 2005 est venue fixer les choses sur des handicaps et sur des droits à compensation, etc. Donc c'est ça, si tu veux, qui a bougé et qui fait qu'aujourd'hui, et on peut le comprendre de la part de certaines familles, d'avoir cette aide et ce soutien lorsque l'enfant est réellement, effectivement, dans des symptômes qui se sont fixés, qui deviennent un handicap, qui nécessitent des ajustements. Mais à certains moments, le handicap n'est pas encore fixé, on peut le mobiliser et c'est à ce niveau-là qu'on a beaucoup essayé de travailler au CMP dans lequel j'ai exercé. Alors, l'histoire de Jean que je vais te raconter était au cours d'une soirée dans le cadre de FARE dont le thème était « C'est quoi comprendre ?» en rajoutant « En présence de l'autre ». Pourquoi on avait rajouté « En présence de l'autre » ? Parce que c'est un clin d'œil aux écrits de Donald Winnicott. Winnicott, tout le monde connaît ou a entendu ce nom, qui est un grand pédiatre anglais qui est mort en 1971. Parce que c'est lui qui nous a appris que le bébé avait besoin d'un objet transitionnel. La peluche, le morceau de tissu qui sent la maison ou le parfum de maman, pour se consoler de la séparation et donc de l'absence de maman ou de papa. Et alors Winnicott avait observé que l'apprentissage d'un petit enfant a la capacité d'être seul, démarre vers 2 ans, mais se fait en présence d'un autre. Un autre bien particulier, puisqu'il faut que ce soit un autre parental suffisamment adulte. Parce qu'il faut que ce soit un autre qui ne soit pas trop loin, disposé au regard de l'enfant quand il en aura besoin, quand il aura besoin d'ailleurs de solliciter cette présence pour se rassurer ou pour être aidé. Et donc, ce « en présence » permet à l'enfant de comprendre comment il peut jouer, mettre des cubes les uns sur les autres, sans forcément que l'adulte intervienne. Mais s'il est en difficulté, il peut solliciter l'adulte et à ce moment-là, il est en démarche de comprendre le monde en présence de l'autre qui, parfois, souvent, doit rester silencieux pour laisser l'enfant faire son propre chemin. Alors, vous noterez que si cet autre est un enfant, qu'il soit du même âge ou un peu plus âgé, ça n'est plus la même chose, parce que là, ce n'est pas la capacité d'être seul que l'enfant va apprendre, c'est plutôt l'apprentissage de la rivalité anxieuse, envieuse, et donc anxieuse. Et puis, si on remonte encore plus loin et qu'on pense aux nourrissons, même le propos de Winnicott s'inverse. C'est le parent qui est confronté à la capacité d'être seul en présence d'un bébé pour tenter d'en comprendre quelque chose de ses pleurs de détresse, souvent inconsolables. Donc tu vois que le « c'est quoi comprendre en présence de l'autre » peut être entendu de la part de l'enfant face à un adulte, mais aussi de la part d'un parent face à un bébé qui n'a pas encore le langage. Voilà, alors quand je rencontre Jean, il est à l'hôpital de jour depuis 4 ans. Parce qu'il avait passé 2 années en CMP qui n'ont pas permis de le maintenir à l'école ordinaire. Alors, l'école ordinaire, c'est l'école des enfants ordinaires. C'est pour ceux qui acceptent tant bien que mal de faire avec le monde des connaissances imposées. Les autres, avant, ils faisaient l'école buissonnière. Mais lui, Jean, donc, ne peut pas faire l'école buissonnière, donc en classe, il se rebelle, il interroge, il dérange, il ne rentre pas dans le rang, il fait sans cesse des commentaires. Donc la maîtresse dit aux parents qu'il faut que l'enfant se fasse soigner, il démarre par un suivi en CMP qui n'est pas suffisant, donc petit à petit, il est obligé d'être plus soigné. C'est ce qu'on appelle un hôpital de jour où Jean a quelques heures de classe avec un enseignant spécialisé qui est détaché de l'éducation nationale. Ce matin-là, ils sont 3 dans la petite salle qui sert de classe. À côté de Jean, il y a Fabrice et Romain, qui sont 2 autres jeunes, qui sont dans le même groupe d'hôpital de jour que Jean. Alors, autant Jean, lui, il est agité dans sa tête, on a l'impression qu'il y a tout le temps des pensées qui... Fabrice, lui, il est tout le temps agité dans son corps, lui. C'est le corps qui bouge tout le temps. Et Romain, lui, il serait plutôt comme une coquille vide, où il y a des choses qui peuvent rentrer à l'intérieur. C'est un peu comme un panier percé, si tu veux, qui absorbe tout ce qui se passe à l'extérieur, mais qui ne retient rien. Ça le traverse presque dans une espèce d'indifférence. Ce matin-là, le maître essaye de faire comprendre la division à ses 3 petits élèves qui sont en hôpital de jour. Et alors, il trace à la craie sur le tableau noir un grand cercle qui symbolise un gâteau. Il le barre d'un trait horizontal en son milieu, en ayant l'idée d'expliquer que c'est le trait de la division et que c'est comme une sorte de soustraction, puisqu'une fois qu'il est coupé en 2, on peut donner une moitié de gâteau à l'autre ou l'autre peut la prendre, en fait, etc. Alors, comme, bien sûr, face à ça, Fabrice, lui, qui est tout le temps agité, s'agite sur sa chaise, il déteste l'école et les explications, il veut rien entendre, il veut rien en comprendre. Alors, l'enseignant s'adresse gentiment à lui et puis lui dit... « Fabrice, si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas comprendre. »« Ça m'est égal !» répond Fabrice. Et voilà notre Jean parti dans ses commentaires. Dire au professeur, « Mais c'est quoi égal ?» il demande au professeur. Et de quel égal parle Jean ? Est-ce qu'il parle de « ça m'est égal » que vient de dire Fabrice ? Ou est-ce qu'il parle d'un autre égal ? Alors, l'enseignant étant tout content de pouvoir reprendre la leçon... il entend le signe mathématique et il entreprend de tracer sur le tableau noir le signe égal pour expliquer que les deux moitiés du gâteau sont de la même grosseur. Donc, mais c'est sans compter que les explications du maître ne font qu'attiser les commentaires de gens qui rebondissent en permanence. Et donc, voyant le signe égal au tableau noir, deux traits horizontaux l'un sur l'autre, Jean, tout excité, demande « Et pourquoi égal, c'est pas deux fois moins ?» Complètement désemparé par la question, l'enseignant s'entend lui répondre « Parce que c'est comme ça. On a décidé il y a longtemps, et d'autres avant nous, qu'on écrirait le signe égal comme ça. Et maintenant, tout le monde est obligé d'accepter que c'est comme ça, sinon on ne comprendrait plus. On ne pourrait plus se comprendre. » Donc, je te laisse imaginer les nouveaux commentaires de gens qui ont suivi à cette explication du professeur. Et pourquoi on est obligé? Et c'est qui les autres avant nous? Et pourquoi ça changerait pas? Et qui c'est qui décide? Voilà. Donc, c'est en écoutant ces enfants qui pensent différemment de nous, en réfléchissant à ce savoir-dire de gens, pourquoi égal c'est pas deux fois moins, que nous pouvons peut-être un peu mieux comprendre le discours de la philosophie de vie. Il y a une philosophe, Anne Souriau, elle a écrit un vocabulaire d'esthétique sur les termes de la philosophie, et notamment concernant le symbole. Et elle dit « Le symbole ne doit pas être confondu avec le signe, parce que le symbole, lui, il n'est pas conventionnel et il ne se comprend pas avec l'intelligence intellectuelle. Il est arbitraire. Il fait appel à l'imagination sensible qu'elle évoque comme étant un spirituel, hein, qu'il suggère, mais sans le dire vraiment. » Voilà. Alors, à l'origine, le mot symbole vient du grec, hein, et c'était un objet qu'on coupait en deux et qui servirait de reconnaissance entre deux personnes qui étaient liées, mais qui allaient se séparer. Et si plus tard, une autre personne était porteuse de ce signe de reconnaissance en venant retrouver celle qui avait été quittée, cela confirmait qu'il venait bien de la part de l'autre personne puisque les deux moitiés pouvaient être congruentes et donc c'était un signe de reliaison. Alors, pour le gâteau, la coupure n'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, hein, puisqu'il ne s'agit pas de se reconnaître pour se retrouver, mais au contraire, de se différencier avec, si possible, deux parties égales pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et que l'avoir soit égal. Voilà. Mais le désir de comprendre, ben, ce n'est pas un désir qui est de l'ordre de l'avoir. Le désir de comprendre, ce n'est pas avoir raison. Est-ce que la question de Jean peut nous aider à en comprendre quelque chose? Il faut savoir que l'adolescence est un moment fécond où peut se donner à comprendre des processus qu'on appelle psychotiques à l'œuvre dans la psyché d'un enfant, grâce à ses savoir-dire particuliers de la psychose. D'accord ? Ces savoir-dire jouent avec les signes et les mots, comme le savoir que ne pouvait pas dire Karine avait joué entre le R et les R, dans son subconscient au moment du traumatisme. Mais là, Jean, il a 12 ans, il a déjà appris à jouer avec les mots, les signes, ses savoir-dire. C'est un jeu qui est sans cesse à l'œuvre dans l'inconscient. Alors, dans le cas de Jean, en connaissant un peu son histoire, il s'est avéré, là aussi, tiens-toi bien, ça paraît drôle, hein, ça peut faire psychanalyse de comptoir, mais l'hypothèse, c'est que le mot-clé était le mot « terre ». T-A-I-R-E. Pourtant, il n'arrêtait pas de parler. Hein. Mais la mère de Jean est secrétaire. Alors là, l'occasion est trop belle, hein, ça paraît un peu comme ça, un peu rapide de dire, bah oui, est-ce que Jean serait victime d'un secret de famille que porterait sa mère et qu'il faut taire? En tout cas, en thérapie d'adulte, quand on se libère de la parole par la parole, les secrets se révèlent souvent concernant des troubles de maltraitance, hein, ce qu'on appelle des maltraitances d'ordre incestueux. Mais là, on touche à une clinique qui est très difficile et qui est très douloureuse chez les adultes parce que il y a des violences qui sont faites au corps d'un enfant, mais il y a aussi et souvent préférentiellement des violences faites à son esprit, des violences faites à la psyché de l'enfant par des paroles ou par des comportements odieux, que ce soit venant d'un autre enfant, mais a fortiori venant d'un adulte. Et souvent, on le sait, la victime se tait. Il faut du temps pour que la parole se libère de l'emprise des adultes. Et là, Jean, que l'on peut qualifier ayant des moments de psychose, lui, il ne se tait pas. Il est en rébellion de se sentir à son tour héritier, peut-être, d'un secret à terre que porterait sa mère et que couvrirait le père silencieux qui ne prend pas parti. Alors, non seulement Jean ne se tait pas, mais en plus, il n'a de cesse de faire des commentaires. Donc, pour sa famille et l'école, la question est comment taire les commentaires. Tu vois pourquoi on peut faire du mot « taire » quelque chose à écouter un peu comme l'air, hein, qui fait sens dans ce discours particulier des questionnements de Jean. Alors, que faut-il comprendre, que faut-il entendre des commentaires de Jean si on part du postulat que sa parole est le témoin de sa présence, même si son savoir-être paraît psychotique? Apprendre à entrer dans le monde commun des autres et en partager avec eux la pesanteur qui est que tout ne s'explique pas. C'est peut-être pour ça qu'une autre intervention lors de cette soirée s'intitulait « Apprendre, c'est mourir à soi-même ». Donc, en conclusion, nous avons pu dire à Jean qu'il avait raison. Égal, c'est aussi deux fois moins. Et que certainement, un des deux moins appartenait à sa maman et qu'on allait en parler avec elle. Voilà, c'est ça être à l'écoute de l'altérité.
Oui, et aussi maîtriser la langue des oiseaux que tu maîtrises beaucoup, hein, qui est aussi une langue des alchimistes. Ouais. Bravo, merci. Alors l'émission touche bientôt à sa fin, Bertrand. Et avant de nous quitter, voilà, c'est de coutume pour moi de demander à mon invité quel message il aimerait faire passer, quel conseil en cette période de grand changement à nos auditeurs?
Oh, le conseil que j'essaye de m'appliquer à moi-même, c'est d'ouvrir justement son esprit à cette, ce qu'on appelle cette altérité, c'est-à-dire à l'esprit des autres. Et ça se rapproche de ce qu'on appelle la pensée animiste, hein, de toutes ces sociétés traditionnelles que l'homo sapiens occidental a écrasé un peu de son savoir dans la colonisation, pensant que le savoir, alors qu'on est obligé de mettre du côté des polythéismes d'abord, puis du monothéisme. Et on voit que dans le monde compliqué d'aujourd'hui, c'est bien trois monothéismes qui se déchirent. Hein. Écoute, je profite de ce que tu me donnes comme message pour dire aussi que j'ai la chance d'être invité le vendredi 1er mars à faire une intervention au Muséum de l'Histoire naturelle de Toulouse, parce que j'essaierai de montrer qu'à mon avis, nous avons à vivre dans une société laïque. Et je pense que la laïcité est une forme de religion animiste. Si on ne donne pas à la laïcité une certaine dimension, donc ce que je souhaite pour les auditrices et les auditeurs, c'est d'être d'abord animiste entre nous, mais aussi avec le monde animal et le monde végétal, on s'en porte beaucoup mieux.
C'est un beau message. Merci Bertrand, en tout cas ça m'a fait très très plaisir de te recevoir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, parce que c'était passionnant.
Merci à
alors,
toi,
merci, Adeline. Merci beaucoup, Bertrand. C'était Énergie Violette, une émission d'Adeline Courson avec à la technique. Merci, Léo Tourou. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Je vous dis namasté, les amis. Prenez soin de vous.